D'accord. Bezrat Hashem, shalom. Voilà, donc c'est bientôt Shavuot, dans 2 semaines. Et on aimerait encore raconter quelques petits trucs sur Shavuot. Il y a beaucoup à raconter. En tout cas, il y a un machal, une parabole qui est très connue par rapport à Shavuot. Shavuot, c'est quoi? C'est le don de la Torah. On va recevoir la Torah. D'accord? Mais ça veut dire quoi, on va recevoir la Torah? Eh bien, de la même façon qu'à Rosh Hashanah, Hashem va nous juger pour savoir est-ce qu'il va nous donner la vie ou pas. D'accord? Eh bien, à Shavuot, c'est un petit peu, ou c'est même beaucoup, le Rosh Hashanah de la Torah. À savoir, ce jour-là, alors, quand je vois où il va décider combien de Torah tu vas acquérir, combien de Torah tu vas recevoir. D'accord? Et pour imager ça, il y a un machal, une parabole mignonnette comme ça qu'on raconte. Qu'il y a un jour, la maman, elle a fait de la mousse au chocolat. Vous aimez la mousse au chocolat?
Oui.
Oui. Elle a fait de la mousse au chocolat. Et elle a dit aux enfants, les enfants, j'ai fait de la mousse au chocolat. Celui qui en veut, qu'il aille chercher un ustensile. Et donc, tous les enfants, ils partent dans la cuisine et chacun, il vient avec un ustensile. Et il y en a un, il vient avec un tout petit verre à café. Combien il en reçoit? Tout petit peu. L'autre, il vient avec un peu plus grand. Qu'est-ce qu'il reçoit? Un peu plus. L'autre, il revient avec un truc énorme. Qu'est-ce qu'elle fait la maman? Elle lui donne un truc énorme. Alors le petit, il dit, mais pourquoi lui l'a reçu plus? Bah, lui, il est venu avec un plus grand, qui est lui, un plus grand ustensile. Et un autre, il vient avec un ustensile sale. Il dit, ah non, la maman, elle dit, je peux pas mettre de la mousse au chocolat là-dedans. C'est pas beau, c'est sale. D'accord? Ça, c'est une parabole. D'accord? Qu'est-ce que ça vient nous apprendre? Qu'à Shavuot, de la même façon. Si tu viens avec un gros ustensile, alors tu recevras beaucoup de Torah. Si tu viens avec un ustensile sale, d'accord, tu recevras rien du tout. Si tu viens avec un petit ustensile, tu recevras un petit peu de Torah. Donc, par rapport à la préparation, c'est justement cette préparation qu'on va faire depuis Pessah jusqu'à Shavuot. Cette préparation, elle va nous aider à grandir notre ustensile, nettoyer notre ustensile, à devenir un vrai keli, un vrai réceptacle de la Torah. D'accord? Maintenant, comment on fait pour être un réceptacle de la Torah? Qu'est-ce qu'il faut faire? Il y a un truc, il faut étudier, il faut se laver, il faut l'obliger, il faut se flageller. Qu'est-ce qu'il faut faire? C'est quoi le... Alors, en réalité, c'est sûr que se flageller, c'est certain, je plaisante. C'est sûr que se tremper au migvé, de faire attention à ses yeux, de faire attention à ses pensées, c'est sûr et certain, comme on voit dans les Pirkei Avot, c'est des outils indispensables pour recevoir la Torah. Aval, il y a un autre outil qui s'appelle la considération. C'est quoi la considération? Est-ce que on demande à Kadosh Baruch Hu de nous donner la Torah, mais cette Torah-là, est-ce qu'on la considère? Le Rav Avigdor Miller, vous connaissez Rav Avigdor Miller? Non? Connais pas? Avigdor Lieberman, non, c'est pas le même. Avigdor, Rav Avigdor Miller, c'est un grand Talmid Chacham. Et on a sorti un livre qui s'appelle « Réjouis-toi dès ta jeunesse ». Vous connaissez? Un livre bleu comme ça, extraordinaire. Où là-bas, il va expliquer les fondements de la Torah. En tout cas, c'était un personnage qui, à l'époque, il m'avait beaucoup, beaucoup impressionné. Et un jour, j'étais à une station de bus comme ça. Et je rencontre un Américain que je ne connaissais pas. On commence à discuter. Et on parle. Et je lui dis, t'as connu, toi, le Rav Avigdor Miller? Il dit, bien sûr, je l'ai connu. Il dit, quoi, t'allais dans ses cours et tout, tu l'entendais? Il dit, bien sûr, je l'ai entendu, aux États-Unis. Et on était la veille de Rosh Hashanah. Et je lui dis, dis-moi un truc qu'il disait. Qu'est-ce qu'il disait, le Rav Avigdor Miller? Il dit, bah, tu vois, la veille de Rosh Hashanah, enfin, le jour de Rosh Hashanah, il commençait la drasha, donc son cours, son sermon, par une période, une parole. Tout, il disait la même parole. Qu'est-ce qu'il disait? Il dit, aujourd'hui, donc à Rosh Hashanah, nous allons demander à Kadosh Baruch Hu, donne-nous la vie, d'accord? Zochenu l'Echaim, souviens-toi, d'accord? L'Echaim, de nous donner de la vie, mets-nous l'Echaim. On va demander à Hachem pendant 2 jours et après pendant 10 jours, Hachem, donne-nous la vie, donne-nous de la vie, donne-nous la vie. Mais avant de demander à Kadosh Baruch Hu de nous donner de la vie, il y a un sentiment qu'on doit avoir. Ce n'est pas un sentiment, il y a une chose qu'on doit, une proclamation qu'on doit faire à Kadosh Baruch Hu. C'est quoi la proclamation? C'est d'abord, on doit dire à Hachem, la vie que tu nous donnes, on l'apprécie. D'accord? Si du matin au soir, on ne considère pas la vie qu'on a, ça veut dire qu'on grogne du matin au soir. D'accord? On n'est pas content de la vie, on n'est pas content de la parnassa, on n'est pas content de la famille, on n'est pas content de la santé, on n'est pas content de tout, toujours, on veut toujours plus, on est tristouné comme ça. D'accord ? Donc on n'est pas satisfait réellement de la vie que Hachem nous donne. Qu'est-ce que maintenant on va venir à Rosh Hashanah, on va dire Hachem, donne-moi de la vie, donne-moi de la vie. Qu'est-ce qu'il va dire Hachem ? Il dit, mais la vie que je t'ai donnée, tu ne l'apprécies pas. Pourquoi tu me récales, tu veux que je te demande de la vie ? Donc le premier sentiment qu'on doit avoir à Rosh Hashanah, c'est quoi ? C'est de montrer à Kadosh Baruch Hu que la vie qu'il nous donne, on la considère, elle est agréable, on l'aime, merci beaucoup. C'est vrai qu'il y a des épreuves dans la vie, n'est pas toujours facile. Enfin, malgré tout, j'assume, je supporte les épreuves que Hachem m'a données et tous les bons moments, toutes les bonnes choses que Hachem m'a données durant toute cette année, alors au moins le remercier. Donc arriver à Rosh Hashanah avec ce sentiment qu'on considère, qu'on apprécie la vie qu'il nous donne. D'accord ? Ce sentiment-là, c'est le même sentiment qu'on doit arriver à Rosh Hashanah. Ah, Shavuot, pardon. J'avais un rave, le rave Yehoshua Toledano. On lui a demandé une fois, c'est quoi Rosh Hashanah ? Comment on doit arriver à Rosh Hashanah ? Il nous a dit comme ça. Et à Rosh Hashanah, tu dois arriver avec un sentiment. C'est quoi le sentiment ? Que la Torah, c'est le point merkazi de ta vie. C'est le point central de ta vie, que tout gravite autour de la Torah. Si tu arrives avec un sentiment pareil, un sentiment d'amour de Torah, de considération de Torah, alors Kadosh Baruch Hu, il te donnera beaucoup de Torah. Mais si cette Torah-là, tu la grognes, cette Torah-là, tu l'aimes pas, cette Torah, à chaque fois qu'il y a le rabbin, il parle à la synagogue, tu t'endors, tu l'écoutes pas, ou à chaque fois qu'on dit, viens un cours, tu grognes, tu veux pas, tu oui, non. Alors que tu peux arriver à Shavuot, comment tu arrives à Shavuot ? Alors il y en a qui s'en fichent, pour eux, Shavuot, ça change rien. Après, on parle de gens sincères, de gens religieux, qui arrivent à Shavuot, d'accord ? Et qui ont envie de passer un bon Shavuot, ils ont envie qu'il y ait une toilette, une utilité de ce Shavuot-là. Et donc, c'est très important de développer cette considération, cette envie, cet amour de Torah. D'accord ? Plus on va avoir de la considération pour la Torah, et plus, alors, on sera un keli, un ustensile pour recevoir la Torah. Je vais essayer de faire un parallèle pour essayer d'imager ça dans une Mishnah des Pirkei Avot. D'accord ? On avait déjà parlé de ça pendant le Tihoul, mais je ne l'avais pas fini. La première Mishnah du deuxième chapitre de Pirkei Avot. Vous savez ce qu'elle dit ? Non, je vais vous le dire. Rabbi Omer, d'accord ? Rabbi, il nous dit, en réalité, cette partie de la Mishnah, ce n'est pas ça qui m'intéresse, c'est la suite. Rabbi continue, il nous dit, Vave Zahir Bemitzvah Kala Kebechamura. Et fais attention à une mitzvah Kala comme à une mitzvah Chamura. C'est quoi une mitzvah Kala ? Fais attention à une mitzvah Kala. C'est quoi une mitzvah Kala ?
Légère. À tes yeux.
Alors une mitzvah Kala, hein, une mitzvah légère. C'est quoi une mitzvah légère ? On va voir. Kebechamura, comme à une mitzvah qui est Chamour. C'est quoi une Chamour ? Chamour, c'est quoi le sens du mot Chamour ? Chamour, c'est grave, important, grave, quelque chose de Chamour. D'accord ? Pourquoi tu dois faire autant attention à une mitzvah Kala comme à une mitzvah Chamura ? Tout simplement, le Tana, il nous répond « Chez en ata yodea matan secharan shel mitzvot » parce que tu ne connais pas le salaire des mitzvot. On connaît le salaire des mitzvot ? On ne connaît pas. D'accord ? Donc quand tu as une mitzvah devant toi, ne te dis pas « Non, non, celle-là, elle est petite, je ne la fais pas, celle-là, elle est grande, oui, je la fais. Pourquoi » Pourquoi ? Parce qu'en réalité, qu'est-ce que tu en sais que celle-là, elle est grande, que celle-là, elle est petite ? Celle-là, elle paraît petite à tes yeux, peut-être qu'elle est grande, et celle-là, elle paraît grande à tes yeux, peut-être qu'elle est petite. Qu'est-ce que tu en sais ? Donc vient le Tana, il nous dit « Écoute, fais pas très bonne note, on connaît pas le salaire des mitzvot. Donc fais attention à une mitzvah légère comme à une mitzvah grave. Tout va bien ? On continue. La Mishnah continue, elle avait dit Veave mechashev efsed mitzvah kedeged sechara ou srara vera kedeged efseda. La première partie, il dit Ave mechashev. C'est quoi mechashev ? Mechashev. Non, considère. Donner de la considération. Ou bien calcul. D'accord ? Fais le calcul. Vave mechashev efsed mitzvah keneged sechara. C'est quoi la perte d'une mitzvah par rapport à son salaire ? C'est quoi la perte d'une mitzvah ? Alors là-bas, selon comment on explique avec les commentateurs, c'est que si tu as face à toi deux choses, tu as une mitzvah et tu as quelque chose qui n'est pas une mitzvah. D'accord ? Et tu te dis que si tu vas faire la mitzvah, eh ben, tu vas perdre quelque chose d'autre. Par exemple, tu as un match de l'OM. Oui, et tu as un cours de Torah. Tu te dis, si je vais au cours, je vais rater le match. Oui, et si je vais au match, je vais rater le cours. Qu'est-ce que tu dis, mais si je vais au cours de cours de Torah, ce cours de Torah-là va me faire perdre quelque chose. Vous voyez ? La perte qu'une mitzvah m'a entraînée. Alors on dit, fais le calcul, mon ami, fais le calcul. Ouais, c'est vrai que cette mitzvah-là va te faire perdre, entre guillemets, quelque chose, à savoir un match de l'OM, mais d'un autre côté, elle va t'apporter un salaire. Donc fais le calcul, est-ce que ça vaut le coup ou pas ? Vave mechashev efsed mitzvah keneged sechara. D'accord ? Maintenant, etc. Je continue pas la suite parce que ça, je veux pas nous embrouiller. La question qu'on pose ici, c'est que si tu me demandes de faire le calcul, c'est que apparemment j'ai une notion du salaire de la mitzvah. Tu me dis un cours de Torah, ouais, fais le calcul par rapport à un autre truc, combien ? Apparemment, la mitzvah, tu as une connaissance de son salaire. Tu sais combien elle vaut ? Oui ? Et précédemment, qu'est-ce qu'on a dit ? Qu'on ne connaissait pas le salaire des mitzvot. Alors, faut savoir. En haut, tu m'as dit, fais toutes les mitzvot. Pourquoi ? Parce que tu ne connais pas le salaire des mitzvot. Et maintenant, tu me dis, commence à faire des calculs, considère ça, fais des calculs. Mais comment je vais faire des calculs si je n'ai pas de notion ? Je comprends qu'une mitzvah, c'est plus important qu'un match de foot ou plein d'autres choses. Aval, ne viens pas utiliser un langage de vénéchachev, considérer, de calculer. Calculer, considérer, tu le fais quand tu as les données. Quand tu n'as pas les données, comment tu calcules ? Comprends la question ? Qui c'est qui pose cette question-là ? Le Bala Afla. Le Afla, c'est un grand commentateur, il pose la question. Qu'est-ce qu'il répond à la question ? Tu te rappelles la réponse ? Qu'est-ce qu'il répond à cette question-là ? Alors, il donne un principe extraordinaire. Il dit qu'en réalité, le salaire des mitzvot, c'est toi qui le fixes. Ça veut dire quoi, c'est toi qui le fixes ? Comment on peut fixer le salaire du mitzvah ? Le salaire du mitzvah, c'est Hachem qui la fixe, le salaire du mitzvah. Comment moi, je vais fixer le salaire d'une mitzvah ? Comment ça marche ? Je dis tout simplement. Il y a la Gemara dans Maseret Roulinet raconte qu'il y a un jour, il y a un bonhomme qui a pris un poulet et qui lui a fait la shrita. Ouais. Et en lui faisant, après la shrita, le sang a coulé. Et après la shrita d'un poulet, on a une autre mitzvah qui s'appelle Kisui Adam. C'est quoi Kisui Adam ? C'est tu dois prendre du sable, c'est une mitzvah à part entière de la Torah, tu dois prendre du sable et recouvrir le sang de l'animal. D'accord ? Chaya ve'off, exactement. Une bête sauvage, à savoir par exemple un cerf ou une chose pareille, et, ou un poulet, un oiseau. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé ? La Gemara raconte dans Maseret Roulin qu'il y a un jour, un bonhomme, il a fait la shrita à un poulet. Et il y a un bonhomme qui est venu derrière, il a pris du sable, il a fait la bracha, et clac, il a jeté le sable sur le sang. Et là, à ce moment-là, le bonhomme dit, que tu voles, tu m'as volé ma mitzvah, c'est à moi. Kisui Adam, il appartient à celui qui a fait la shrita, tu m'as volé la mitzvah. Et donc, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils sont partis chez Rabban Gamliel. Rabban Gamliel, le mec, il a écouté l'histoire et il a tranché. Il a dit, en effet, tu lui as volé sa mitzvah, tu dois lui rembourser. Et qu'est-ce qu'il lui a dit ? Tu dois payer combien ? Non, 10 éouvim, 10 pièces d'or. D'accord ? La question qu'on pose, il dit, mais attends, mais Rabban Gamliel, lui, 10 pièces d'or, mais quoi, il avait un barème ? Ça, il avait un barème, Kisui Adam, 10 pièces d'or, Limud Torah, il avait un barème de la valeur des mitzvot ? Alors, les commentateurs, ils expliquent, ils disent, non, en réalité, Rabban Gamliel, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a dit un chiffre au hasard. Il a dit 10 pièces d'or. Et quoi ? Et il a vu la réaction de l'autre. Qu'est-ce qu'il a dit l'autre ? Il a dit, ouais, 10 pièces d'or, ouais, c'est bien, ouais, donne-moi 10 pièces d'or. Donc, qu'est-ce qu'il a, en disant 10 pièces d'or, qu'est-ce qu'il a fait le bonhomme ? Il a limité, il a fixé le salaire de la mitzvah. S'il avait dit, ma pitom, 10 pièces d'or, mais ça ne me suffit pas, mais je veux plus que ça, beaucoup plus. 100, non, 200, non, je veux plus que ça, c'est infini. Alors, Bémet, la valeur de la mitzvah, elle est à l'infini. Tandis qu'en disant 10 pièces d'or, il a limité à 10 pièces d'or. D'accord ? Et donc, c'est ça que signifie la mitzvah, la Mishnah. La Mishnah, elle te dit, toutes les mitzvot, kalot ou chamurot, d'accord, qui sont grandes ou qui sont petites, d'accord, tu ne connais pas le salaire de ces mitzvot-là. Pourquoi tu ne connais pas le salaire de ces mitzvot ? Parce qu'en réalité, c'est toi qui le fixes. Si tu donnes de l'importance à cette mitzvah-là, alors tu vas fixer la barre de cette mitzvah très très haute. Et c'est ça le calcul que tu vas faire. Si tu vémechachèves la mitzvah, tu considères une mitzvah, ça veut dire quoi ? Tu donnes de la considération à une mitzvah, alors là, elle prend une réelle valeur. D'accord ? Cette application de ce principe-là, on le retrouve dans plein d'endroits. J'ai deux histoires à vous raconter. J'ai plein de choses à vous dire encore. D'abord, pour commencer, déjà, ça répond à une question, une grande question qui est très connue, où il y a marqué que Hachem va paye le salaire des mitzvot, des rechaim, des impies, dans ce monde-ci. D'accord ? Un homme, il a fait plein d'avérotes dans sa vie, il a fait quelques mitzvot, qu'est-ce que Hachem va faire ? il va lui payer dans ce monde-ci. Tiens, vas-y, prends. Pourquoi ? Afin de le bannir du Olam Haba. La question qu'on pose, comment est-ce que Hachem peut payer les salaires, le salaire des misodes d'un rachat ? On a dit, il y a un autre endroit, où on dit qu'il n'y a pas de salaire des mitzvot dans ce monde-ci. D'accord ? Le Rav Dessler, là-bas, dans le premier chapitre, dans le premier tome du Mirta Meliaou, il y a tout un mahamar là-bas très intéressant où il explique que Srar mitzvah be'ayama leika, que le salaire d'une mitzvah dans ce monde-ci, il n'y a pas. Là-bas, il explique pourquoi il n'y a pas. Il dit parce que le Olam Haba, c'est quelque chose d'éternel. D'accord ? Même si je te donne la plus petite somme, quelle qu'elle soit, la plus petite récompense, quelle qu'elle soit, mais durant l'éternité, ça veut dire que je vais te donner un dixième de centime d'euro tous les jours pendant l'éternité. C'est toujours beaucoup plus que des centaines de millions d'euros d'un coup. Oui ? Pourquoi ? Parce que ça, c'est éternel. Ça, c'est pas éternel. Ça, c'est limité. D'accord ? Éternel, c'est très très long. Combien de temps ça dure l'éternité, vous savez ? Enfin, je sais pas combien de temps ça dure, mais par exemple, c'est très très long, surtout vers la fin. C'est très long. Non, combien de temps ça dure l'éternité ? Vous savez combien de temps ça dure l'éternité ?
C'est toujours l'éternité.
Ouais, c'est sûr, pour me dire que ça, c'est évident. C'est sûr que l'éternité, c'est infini. C'est évident.
Quand on dit honneur ton père et ta mère, on a un salaire. Il y a 3 mitzvot, je crois, il y a des salaires.
Il y a fait mes votes, c'est par rapport au lamba. Ouais, non. Il y a des mitzvot, il y a des endroits où la Torah elle vient un petit peu nous dévoiler le salaire des mitzvot. En tout cas, mais ça parle à combien de temps ça dure l'éternité ? C'est combien de temps l'éternité ? Ensof, c'est sûr, mais est-ce que tu arrives à me l'amrich, de me faire tâter un petit peu ? Il y a un machal, une parabole. Un jour, on raconte qu'un roi, il a demandé à ses conseillers combien de temps dure l'éternité ? Et personne n'était capable de lui répondre. Alors, il a dit infini, Ensof, etc. Et là, il y a un racham, il lui a dit je vais t'expliquer combien de temps ça dure l'éternité. Tu vas prendre une montagne, d'accord ? Et sur cette montagne-là, tu vas mettre une autre montagne. Et tu vas mettre encore une autre montagne. Et tu vas prendre toutes les montagnes du monde et tu les mets les unes sur les autres. D'accord ? Ça fait une grosse montagne. Et tout en haut de la montagne, tu vas mettre un petit oiseau. D'accord ? Tout en haut. Et lorsque l'oiseau, avec le frottement de ses petites pattes sur le haut de la montagne, il aura usé toutes les montagnes, alors là, se sera écoulée la première seconde de l'éternité. C'est long. Waouh ! D'accord ? Hein ? Ça va. C'est limite, mais bon, c'est pas mal quand même déjà, non ? D'accord ? C'est juste pour nous faire ressentir un petit peu c'est quoi l'éternité. Et donc, des fois, quand on est face à une avéra, on se dit quoi ? Je vais me taper, enfin, je vais perdre l'éternité à cause d'un petit plaisir futile qui va durer à peine quelques secondes. Et c'est même pas un plaisir des fois, c'est des trucs bidons. D'accord ? Une petite marque d'orgueil, une petite bêtise comme ça, un petit gros mot. Pourquoi ? À cause d'une petite machin ? On va perdre l'éternité à cause de ça ? C'est dommage. D'accord ? Donc, il faut savoir que l'enjeu est grand. L'enjeu est grand et très, très grand et très, très long. En tout cas, donc le salaire, un salaire éternel est toujours plus grand qu'un salaire qui est fixé. Donc, c'est pour ça que du fait qu'une mitzvah, c'est quelque chose d'éternel, d'accord ? Hachem ne peut pas nous payer le salaire du mitzvah dans ce monde-ci. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas assez de richesse dans ce monde-ci. Maintenant, alors dans ces cas-là, on pose la question, comment on peut dire que Hachem il paye le salaire des Rechaim dans ce monde ? Juste un instant, tu viens me dire qu'il n'y a pas de limite au salaire des mitzvot. Alors comment il paye le salaire des Rechaim dans ce monde ? Comme on expliquait.
Avec la valeur que lui...
Exactement, comme on l'a expliqué précédemment. En réalité... Un homme, c'est lui qui va lui donner la valeur de sa mitzvah. Si un homme, il fait une mitzvah et il va la considérer comme quelque chose d'absolu, d'éternel, qui lui donne une valeur sans fin, d'accord ? Bémet, cette mitzvah-là, elle aura une valeur sans fin. Un exemple qu'on peut donner, est-ce que vous, Baruch HaShem, vous êtes des bons juifs Shomer Shabbat ? Est-ce que vous seriez prêt à fumer une cigarette Shabbat ?
Non, c'est dur.
Je te donne 10 000 euros de fumer une cigarette Shabbat. 100 000 euros ! 1 million ! 1 milliard ! Oh ! Et chez nous, c'est quelque chose d'extrêmement ancré. D'accord ? Il y a des choses vraiment qui ont une valeur extraordinaire pour nous. D'accord ? Et donc, ça a une valeur infinie. Il y a des choses que... On est prêt à mourir, on ne les fera pas.
C'est le rachat.
Attends. Maintenant, le rachat, lui, il a... Lui, par contre, chez lui, il y a oui un barème.
Il est bien.
Pourquoi ? Pourquoi il est bien ?
Si on remarque dans ce monde, un rachat, à peine il fait une mise 20... Hachem, vous avez dit, il est bien dans ce monde.
Ça dépend combien il va les donner.
Toute sa vie, il est bien.
Alors, c'est bon, ça dépend. Bon, alors, attends, mais... ça dépend. C'est très intéressant. Très intéressant parce qu'il y a expliqué ça. Je vais expliquer ça. J'ai entendu une fois d'un arabe quelque chose d'extraordinaire comment il expliquait cette chose-là. Qu'est-ce qu'on disait? D'accord. Le rachat, donc, c'est lui qui va... Chez rachat, c'est pas comme ça. Le rachat, lui, il est prêt pour de l'argent ou pour... pas forcément de l'argent, pour autre chose. Il est prêt à gâcher ses mitzvot, il est prêt à gâcher ces choses-là. Comment? Par exemple, un homme, il fait du... Il va à la prière, par exemple. D'accord? On va dire un rachat qui va à la prière, c'est pas très courant. Mais on va dire un homme qui se comporte mal et qui va à la prière. Il va à la prière. Combien sa prière, elle vaut? Combien sa prière, elle vaut? Est-ce qu'elle a une vraie valeur? Est-ce qu'elle a quelque chose qu'il considère réellement? Eh bien, en vérité, tous les soirs, il va à Arvit. D'accord? Tous les soirs, il va à Arvit. Il fait le Krat Shema, comme moi, il fait Arvit. Et un soir, il est parti, je ne sais pas où, dans un mariage, et le monsieur, il est crevé. Et il y a un minyan maintenant. Mais pour aller au minyan, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut marcher un petit peu, ou il faut prendre la voiture, ou il faut se fatiguer un petit peu. Est-ce qu'il va aller au minyan ou pas? Ouais. Alors, si c'est un homme qui est un fou d'Arvit, que pour lui, Arvit, c'est quelque chose de d'extraordinaire, d'accord? Par vents et marées, même si ça lui coûte de l'argent, alors il ira faire Arvit quoi qu'il arrive. D'accord? Et ainsi, il va donner une réelle valeur à sa mitzvah. Mais si l'homme, lorsqu'il est fatigué, ou lorsqu'il s'est un petit peu loin, ou lorsqu'il faut dépenser de l'argent, là, il commence à réfléchir à ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas, automatiquement, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fixé la valeur de sa mitzvah. Et donc, Akash Borou, il va envoyer des épreuves à ces récharim-là. Et ces épreuves-là, c'est elles qui vont fixer le salaire des mitzvot. Un homme, d'accord, Racha, on va dire que toute année, il garde Shabbat, ou toute année, il mange plus ou moins kasher. Et un jour, il est en vacances. Où est-ce qu'il est? Il est en Thaïlande. D'accord? Qu'est-ce qu'il va manger? Et le mec, il a faim. J'ai faim. Qu'est-ce que je vais manger? Oh là là, elles sont vachement appétissantes, hein, ces crevettes. Oh, on n'est pas en Israël, hein, je peux manger des crevettes, oui ou non? Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va craquer. Donc, qu'est-ce qu'il a prouvé par là? Que la valeur de la cache-route pour lui, qu'est-ce qu'elle vaut? Il vaut une crevette. D'accord? D'accord, moi j'avais un copain, quand on était jeune, je suis toujours jeune, hein, Baruch HaShem, mais j'avais un copain, on mangeait kasher, shomer shabbat, tout ce que tu veux. Mais les croque-monsieur, c'était trop fort pour lui, il pouvait pas. C'est ces croque-monsieur, c'est le fromage avec le jambon. C'était un truc, lui, il pouvait pas. Croque-monsieur, c'était... Donc lui, la cache-route, il a fixé jusqu'à un certain niveau. Donc il avait un amour de la Torah, une appréciation, mais c'était limité au croque-monsieur. Il y en a pour qui ça sera les filles, d'accord? Il fait la Torah, tout ce que tu veux, mais alors devant une fille, il peut pas, il craque. Et donc ainsi, Akash Borou, il va mettre le rachat face à une épreuve, et c'est cette épreuve-là qu'il ne va pas surmonter, qui va délimiter les mitzvot. Il va donner la valeur des mitzvot. Maintenant, des foyers des récharim qui font des mitzvot, d'accord? Et que aussi ils sont prêts à ne pas les vater, ils sont prêts à ne pas y renoncer. Alors comment est-ce qu'on fixe le prix? Et toi, t'as dit plus que ça, t'as dit une autre chose. Alors ça veut dire quoi? Qu'un rachat qui fait une mitzvah, alors automatiquement il devient Bill Gates, quoi? Il reçoit des millions? J'ai entendu un rave, il disait comme ça, il dit, cet homme-là, il est en bonne santé, oui, en bonne santé. Il respire, il voit, il entend, il mange, il est marié, etc., etc. Mais est-ce qu'il sait combien tout ça, ça coûte? Combien ça coûte, Chas v'Shalom, quelqu'un qui est malade, qui doit changer un rein, combien ça coûte? D'accord, combien ça coûte changer un rein? Je ne sais pas combien ça coûte, mais ça coûte... Non, ça, c'est... oui, non, des fois, je ne sais pas, c'est gratuit, mais... On va dire, il n'y a pas de rein, pas gratuit. On te propose d'en vendre un, de t'en vendre un. Combien t'es prêt à payer un rein? 10, 15, 20, 30, 50 000 euros, 100 000 euros. D'accord? Combien t'en as? T'en as deux. Donc rien que là, tu as peut-être 200 000 euros. Tu veux changer un œil, combien ça coûte? Combien ça coûte? Ça change un œil? Je crois que ça change un œil, non? Oui, sûrement. Combien ça coûte un œil?
Une prothèse.
Combien ça vaut un œil? 50, 100 000, 200 000 euros. T'entends rien, tu en veux te greffer une oreille. Combien ça coûte une oreille?
Un appareil auditif.
Combien un type qui n'entend pas, il est prêt à payer pour avoir deux oreilles? D'accord? Il a toutes ses dents, d'accord? Combien ça vaut des dents? T'as déjà changé une dent?
C'est une
blinde des dents, non? 5 000, 10 000, 2 000, franchement, elle est étrange. C'est une fortune. D'accord? En réalité, le monsieur, c'est une fortune ce qu'il a sur lui. Oui ou non? Quoi alors? Akadosh Baruch Hu, à ce rachat-là, il lui donne la vie tous les jours. Il le fait respirer. Le fait de pouvoir manger, de bien digérer, combien ça coûte ça? Il y a des gens qui ne peuvent pas manger par la bouche. D'accord? On doit en mettre un intraveineuse. Combien un homme pareil, il serait prêt à payer pour manger un steak frites?
Non, mais par rapport à ce que j'ai dit. C'est...
La même façon. Que des fois, le rachat, d'accord? La vie qu'il va recevoir ne sera plus gratuite. Akadosh Baruch Hu, il nous donne la vie gratuitement. D'accord? Il nous fait vivre. Il nous donne tout ce qu'on a, on l'a gratuitement. Le rachat, quand il voudra le faire perdre de ce monde, il va dire, écoute, ce rachat-là, il ne mérite pas de vivre. Mais comme j'ai quelques mitzvot, comme il a fait quelques mitzvot et je dois lui rembourser quelques mitzvot, alors je vais lui donner encore quelques jours de location de son corps, qu'il en profite encore.
Il y a des rachats qui, grâce aux mitzvot, ils sont bien gens, ils sont riches, ils sont tout.
Alors, oui.
Alors, c'est pas ça, ils n'ont pas que ça.
Non, ils n'ont pas que ça. Alors, tu peux aussi avoir une petite Tosefet, avoir une grosse voiture, avoir une grosse... C'est sur ça, il y a un truc intéressant. Hein, où là-bas, c'est le Rav Dessler, il a un Mahamar qui est extraordinaire sur ça. Par rapport au salaire des mitzvot. Peut-être à l'occasion, je vous ferai, mais c'est un truc très, 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 très intéressant. Mais il y a une notion de mazal. C'est le mazal. Je ne vais pas rentrer dans ça, mais juste pour expliquer. Le mazal, chacun il a un mazal. 40 jours avant la naissance d'un homme, alors on décide, mis à part ça, on décide s'il sera riche, s'il sera pauvre, s'il sera intelligent, s'il sera bête, d'accord ? Son profil, il est déjà décidé avant sa naissance. D'accord ? La façon dont il va traverser la vie. Est-ce qu'il va naître dans une famille religieuse, pas religieuse ? Est-ce qu'il aura des bons amis, pas des bons amis ? Tout ça s'est fixé, c'est le profil, d'accord ? Et plus que ça, Chazal, ils nous disent que c'est nous qui choisissons avant de descendre. En fonction du Gilgul présent, de la vie qu'on avait précédemment. Et donc, on a un mazal. Et le Ochot Sadikim, vous allez me dire, El Mazal Israël, c'est une autre notion. C'est surtout par rapport au Klal Israël, que le Klal Israël, lui, il n'a pas de mazal. En fonction de ses actes, il peut changer son mazal. Aval, il y a, oui, une certaine programmation pour chacun d'entre nous. Et le Ochot Sadikim, il explique, il dit, combien on a vu de gens, d'accord, qui étaient impies, et qui avaient tout pour eux, ils réussissaient, ils avaient de l'argent, ils avaient ce que tu veux. Et à partir du moment où ils ont décidé de faire tchouva, ils ont tout perdu. Comment c'est possible? Le Rav Sadikim l'explique. Le Rav Pinkus aussi l'explique là-bas dans Tifer Datorah. Aussi, le Rav Dessler l'explique. Dit que avant, qui c'est qu'il nourrissait? C'était Yetzer. D'accord? C'était le mal. Pourquoi? Parce que le mal, il est intéressé. Et ça aussi, c'est une dracha entière à faire. Qu'il y a des gens qui se comportent mal et qui réussissent. Pourquoi? Pour être une épreuve pour les autres. D'accord ? Imaginez-vous, ça aussi c'est un truc qu'on a déjà parlé, imaginez-vous, là je vous raconte comment je l'avais, j'avais expliqué ça, hein. Il y avait un groupe qui est venu, il y avait une expliqué qu'ils avaient une prof à l'école, qui était une école juive, qui était très très anti-religieuse, très très anti-religieuse. Et elle, toujours elle racontait, elle aimait bien raconter et se moquer, comment d'une famille, elle devenait une famille religieuse, comment elle avait abandonné la Torah. Elle raconte que quand elle était petite, toujours on lui disait de ne pas allumer la lumière Shabbat, de ne pas manger des trucs pas cachés, etc. Et un jour, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a allumé la lumière Shabbat sans faire exprès. Et qu'est-ce qui lui est arrivé? La foudre s'est abattue. Non, pas qu'est-ce qui lui est arrivé? Rien du tout. Il n'y a rien arrivé du tout. Elle dit, mais je comprends pas. On m'a dit de ne pas allumer la lumière Shabbat, j'allume la lumière, il ne s'est rien passé. Incroyable. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a réessayé. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Rien du tout. Et ainsi de suite, elle a commencé à profaner Shabbat. Elle a vu qu'il lui arrivait rien du tout. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a commencé à manger pas cachère. Elle s'est étouffée? Pas du tout. Il lui est rien arrivé. Alors je comprends pas, on me dit pas manger pas cachère, on me dit de pas transgresser Shabbat. Ouais, je le fais, il m'arrive rien. Et donc les élèves qui étaient arrivés, c'était des Sarcellois, ils m'ont dit, qu'est-ce que vous lui aurez répondu à cette dame-là? Des petits jeunes de 13, 14 ans, ils ne savent pas quoi répondre. Je dis, mais cette question-là, elle est écrite, ça, c'est évident, c'était la... C'est ce qu'ils ont, c'est ce qu'on appelle Sadik Veralo, Racha Betoblo, qu'est-ce que ça veut dire? Imaginez-vous que toutes les personnes qui allumeraient la lumière Shabbat, elle s'est électrocuterait. Est-ce que quelqu'un allumerait la lumière Shabbat? C'est sûr que non. Toutes les personnes qui mangeraient quelque chose de pas cachère, d'accord, elles s'étoufferaient et mourraient. Quelqu'un mangerait pas cachère. Ou le mec qui met la clé dans sa voiture Shabbat, la voiture, elle explose. Quelqu'un prendrait la voiture Shabbat? Si tu avais immédiatement le salaire et la punition des mitzvot, oui, est-ce qu'il y a quelqu'un qui ne ferait pas les mitzvot? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui ferait la vérote? Ils sont bêtes ou quoi les gens? D'accord? Donc en réalité, de ne pas recevoir directement et immédiatement le salaire des mitzvot et la punition d'Averot, c'est quelque chose qui est nécessaire à la bonne marche du monde. Et c'est ce qu'on appelle le libre-arbitre. Le libre-arbitre, il est que quoi? Que j'efface à moi le bien et le mal, et je peux choisir ce que je veux. C'est quoi je peux choisir? Je peux prendre un chemin sans qu'il m'arrive rien, et je peux prendre un autre chemin sans qu'il m'arrive rien. Les conséquences, elles ne sont pas immédiates, elles sont après coup. D'accord? Des fois, ça met un an, des fois, ça met 10 ans, des fois, ça met 50 ans, et des fois, ça ne vient jamais. D'accord? Donc, ça met beaucoup de temps. Et pourquoi on parle de ça, je ne me rappelle plus. D'accord. Et donc les Rechaïm, Akadosh Baruch Hu, il va faire payer. Ah oui, pour le Mazal, excusez-moi, voilà, je me rappelle. Le Mazal. Et donc quoi? Un rachat qui réussit, c'est une bonne publicité pour le Yetzirah. C'est une bonne publicité pour lui. Pourquoi? Parce que grâce à lui, alors il va réussir à tromper les autres. Quoi, tu veux faire tchouva, mais laisse tomber. Regarde, celui-là, il fait pas la Torah. Regarde comment il réussit, il fait comme lui. Et il y a un autre truc qui s'appelle Tzadik Veralo. C'est un tzadik, il lui arrive que des galères. Et qu'est-ce qu'il lui dit au Yetzirah? Il dit, hey, tu veux faire tchouva, regarde l'autre, là, il est religieux, mais il a que des galères, il a. Et donc ainsi, on a face à nous le libre arbitre. Et c'est ce qui se passe dans le monde. Et c'est ce qu'il dit le Rod Tzadikim. Il a dit combien de personnes qui étaient impies, qui faisaient d'Averot, et qui réussissaient. Et dès qu'ils ont fait tchouva, ils ont tout perdu. Pourquoi? Là-bas, il explique tout simplement. Il dit avant, ça c'est le langage du Rav d'Esther, avant c'était des agents du Yetzirah. Ils travaillaient pour Yetzirah. Donc c'est normal que le Yetzirah, il les paye. Si maintenant vous êtes représentant chez une grande marque, c'est normal qu'il vous donne quoi? Un appartement de fonction, une voiture, un salaire, d'accord? Vous travaillez pour lui. Donc le Seri Charim, là, travaille pour le Yetzirah, donc c'est normal qu'ils reçoivent. Mais à partir du moment où le bonhomme, il dit au Yetzirah, il dit écoute, je travaille plus pour toi. Ah, travaille plus pour moi? Bah, tu me rends tout. Tu me rends la dadam, tu me rends la grosse voiture, tu me rends tout, tu me rends tout. Et tu retournes sous ton mazal. Si t'as un mauvais mazal, et ben maintenant tu supportes ton mazal tout seul. Et si t'as un bon mazal, bon, ben ça t'achève, tu pourras continuer. Ah, le Rav Pinkus, il parle. C'est très intéressant ce que vous dites. C'est très intéressant ce que vous dites. Le Rav Pinkus, il parle exactement, il pose cette question-là. Je sais pas, c'est pas mon propos maintenant, mais c'est une vraie question. Où là-bas, il dit, le Rav Pinkus, il explique. Alors, celui qui a un mauvais mazal, comment il fait? En deux mots, avant, il travaillait pour le Yetzirah, c'est le Yetzirah qui payait, d'accord? Eh bien, qu'est-ce qu'on lui dit? Bah, travaille maintenant pour Hachem. Travaille pour Hachem, mais là, tu vas devenir pas un agent du Yetzirah, tu vas devenir un agent d'Akadosh Baruch Hu. Et là, tu vas sortir de ton mazal. C'est une des façons de sortir de son mazal, c'est travailler pour Hachem. Qu'est-ce que ça veut dire pour Hachem? Il y a beaucoup à expliquer, il y a tout un mahamar entier du Rav Pinkus, très très intéressant sur ça. Dans Tiferet HaTorah, pour celui qui veut voir, dans Tiferet HaTorah, sur Parashat Lech Lecha, sur le Pasuk, Anochim Magen Lecha. Très, très intéressant. D'accord, revenons à notre sujet. Quelle est ta question, jeune homme?
Il y a des tzadikim qui ont un salaire aussi.
Dans ce monde-ci?
Dans ce monde-ci, qui n'ont pas que des galères.
Alors, c'est très intéressant ce que tu dis. Il n'y a aucun salaire dans ce monde-ci. Le salaire que tu reçois, d'abord, où est-ce qu'on voit ça? Qu'est-ce qu'on dit dans le Shema Yisrael tous les jours? Ve'aya Im, Shamuart, Shimiron, Mitzvotai, et voici si vous écoutez mes mitzvot, d'accord, que je vous ordonne aujourd'hui. Alors qu'est-ce qu'il va faire, Hachem? Qu'est-ce qu'il va nous donner? Venatati, Metarartsechem, Be'aito, Yoreu, Makosh, Vasafta, Deganecha, Venatati, je vous donnerai, Yoreu, je vous donnerai la pluie, et je vous donnerai la Parnassa, je vous donnerai le Shalom, je vous donnerai les enfants, plein de choses. Donc tu vois que oui, il y a un salaire des mitzvot. Ils font des mitzvot, ils reçoivent un salaire. Quoi non?
On le voit pas dans ce moment. C'est ma question.
Ingratitude, tu vois pas?
On voit pas.
Oh Hachem, on est en bonne santé. Mais quoi, c'est pas un salaire ça, c'est pas extraordinaire?
Vous voyez un vrai.
Tu vois comment ils galèrent les gens? Va en Afrique, comment ils soufflent les gens? Va en Chine, les mecs, ils sont à travailler pour 30 dollars. Ingratitude, moi.
Qu'est-ce qu'il a pas grand chose?
Qu'est-ce qu'il a pas grand chose? Il a à manger, il a une maison, il a une femme, il a des enfants. Bah, ou Hachem. C'est parce qu'on a un kappa ou un kappa. Bah, ou Hachem. Ceux qui servent là, ceux qui servent Hachem, en général, ils sont heureux. Et l'heureux. L'heureux, c'est pas forcément le mec qui a de l'argent. L'heureux, c'est un état d'esprit, être heureux, c'est quelque chose de bien. Ah non, il peut tout avoir. Il suffit qu'Hachem, il lui dérègle un petit truc dans son cerveau, il devient fou. Regarde ces grandes stars là, regarde celui-là, Michael Jackson. Ouais, le mec, il avait tout. Presque tout, quoi. Il était au top. Mais non, le mec, il se droguait, il était machin, il en est mort d'ailleurs. Pourquoi? Un petit truc, quand je me recouille, il a déréglé dans son cerveau. Non? Bon, en tout cas, attends, j'ai pas fini l'explication que je te donne. Et donc, là-bas, le Rambam, il répond à cette question-là. Il dit que tout ça qui a marqué, tout ce qui a marqué dans le Kriyat Shema, toutes les promesses que la Torah nous donne, qu'on recevra dans ce monde-ci, c'est pas un salaire. C'est des moyens de servir Hachem. Je donnais un exemple à l'époque, je le donne plus aujourd'hui parce que c'est un petit peu. Bon, je vais vous le donner, c'était rigolo. C'était. Je sais pas, il y a 15 ans, c'est l'exemple que je donnais. C'est les gladiateurs. C'est les gladiateurs. Enfin, les Avdi, vraiment, je dis, ben, prenons-le à la rigolade. Les gladiateurs, vous savez comment ça marchait, les combats de gladiateurs? Il y avait le champion qui se battait contre un nouveau. Maintenant, le champion, comment il était? Il avait une épée, il avait une armure, il avait tout. Et l'autre, qu'est-ce qu'il avait? Il avait rien. Même pas, il y avait un, ils se battaient ensemble. D'accord ? Alors, il y a tout, je pense qu'il y avait toutes sortes de combats de gladiateurs. En tout cas, c'est un entre parenthèses qu'on avait fait le Tioul, vous vous rappelez ? Il y a 4 ou 5 mois, il nous a expliqué, le guide avait rapporté la Gemara, on dit que les gladiateurs, c'était qui les gladiateurs à Rome ? C'était des juifs. C'est qu'ils avaient pris en exil les juifs, d'accord ? Qui s'étaient retrouvés à Rome, et les Romains s'amusaient à mettre des juifs dans l'arène à se battre. D'accord ? C'était, et là-bas, on voit, il y a toutes sortes d'alachot par rapport aux armes, etc. Et c'était lié justement aux gladiateurs. On referme la parenthèse. En tout cas, le gladiateur, qu'est-ce qu'il était ? Donc l'autre, il était presque nu. Et il se battait. Maintenant, qu'est-ce qui se passe ? Si, bien qu'il soit nu, il réussit à vaincre l'autre gladiateur, alors il devient champion. Maintenant, qu'est-ce qu'on va lui donner ? Une armure ? Pas du tout. Qu'est-ce qu'on va lui donner ? On va lui donner un truc. On va lui donner une épée. Et à chaque fois qu'il gagne, on va lui donner un truc de plus. Et à la fin, s'il gagne tous les combats, ça va devenir un tank, le bonhomme. D'accord ? Les Avdil, bon, c'est vraiment juste l'exemple qu'on donnait à l'époque pour rigoler. Mais c'est un peu dans le même principe. Plus tu vas faire de la Torah, ouais, et plus Akadosh Baruch Hu va te donner les moyens de faire de la Torah. Et c'est ça qu'il dit, Venatati Metartzeh, Beito, Yoru, Makosh, je te donnerai la paix. Plus tu vas faire, plus tu vas. C'est comme un agent commercial qui travaille pour une société. Plus il va faire du bénéfice et plus on va lui donner. On va donner une petite voiture au début, après on a une grosse voiture, on va lui donner un gros téléphone, un deuxième téléphone, une secrétaire, deuxième secrétaire, on va lui donner un avion privé, d'accord ? Le type il rentre de l'argent, on va lui donner. Plus tu vas faire, plus tu recevras. Mais ça, c'est pas le salaire. Le salaire, c'est Sra Be'ai Alma, Sra Mitzvah Be'ai Alma Leka. D'accord ? Maintenant reprenons notre sujet. J'avais deux histoires à vous raconter. La première histoire, c'est pour expliquer ce qu'on avait dit ici, que le fait de considérer la mitzvah, il y avait un rabbin qui s'appelait le Apte Rebbe, le rav de Apta. Vous connaissez Apte. C'était le Ohev Israël de Apte. Et il y a un jour, il y a un chassid qui est venu le voir. Il lui a dit, Kvod Arav, moi j'étais un grand marchand, j'ai beaucoup d'argent, j'ai tout perdu, et j'ai besoin de marier ma fille. Il dit, d'accord, combien t'as besoin ? Il lui a dit, j'ai besoin de 1000 roubles. Il dit, d'accord, combien t'as ? J'ai un rouble. Il dit, ouais, bravo, tu vas pas aller très loin, c'est un petit peu chaud. Alors, le rabbi réfléchit, il lui dit, écoute, va. Et la première affaire qui se présente à toi, fais-la. Tu connais l'histoire ? La première affaire qui se présente, vas-y, tu la fais. Le bon ami s'en va, il retourne à l'auberge. Et dans la salle principale de l'auberge, il voit des marchands de diamants, des diamantaires en train de discuter les uns avec les autres. Il prend une pierre, lui montre, s'échange des pierres. Il regarde comme ça, il s'approche. Et il y en a un des diamantaires, il regarde, il dit, qu'est-ce que tu regardes ? Il dit, tu veux faire des affaires ? Hein ? Tu veux faire des affaires ? Des diamants, j'ai des diamants. Et le bonhomme, il dit, ouais, pourquoi pas ? Vous avez une bonne affaire ? Il dit, oui, bien sûr, on a des affaires, d'autant, combien d'argent tu as ? Alors le bonhomme, il lui dit, ben, j'ai un rouble. Un rouble, qu'est-ce que tu vas acheter avec un rouble ? Tu peux pas acheter des diamants avec un rouble, Ah, j'ai rien à proposer. Tous les bonhommes, ils sont morts de rire, en train de rigoler. Vous entendez ces idiots là, ce barbu là, il veut faire des affaires avec un rouble. Il n'y a rien à faire, on peut rien faire avec un rouble. Et il y en a un mort de rire, il rigole, il dit, ah, si tu veux, moi j'ai un truc à te vendre pour un rouble. Ouais, quoi ? Il dit, si tu veux, je te vends mon Olam Haba pour un rouble. Je te vends mon monde futur pour un rouble. Et ils sont morts de rire. Maintenant, le juif, il réfléchit. Il dit, la première affaire qui se présente, je la fais. Il dit, d'accord, j'accepte, à condition qu'on fasse un contrat. Mais oui, on va faire un contrat, mort de rire, vas-y, écris le contrat. Alors le bonhomme, il écrit, comment je t'appelle hein ? Il écrit le contrat, il achète le Olam Haba pour un rouble, et donc il lui donne le rouble ici, et ils sont morts de rire, regardez le rouble, j'ai réussi, Qu'est-ce qu'il fait, ce juif ? Il rentre, il s'en va, il repart. Et entre-temps, qui c'est qui rentre ? La femme, hein, d'un diamantaire. Elle les voit, tout ça, tous morts de rire, en train de rigoler. Et ça va, dit, pourquoi, qu'est-ce qu'il y a de rigolo là ? Pourquoi vous rigolez ? Il dit, ah, il y a un religieux là, un barbu, il est venu, il a un truc, il voulait faire des affaires, je lui ai vendu mon Olam Haba pour un euro, pour un roux, il rigole. La femme, elle dit, quoi ? Tu lui as vendu ton Olam Haba pour un rouble ? Mais t'es pas un peu fou ? Mais il dit, quoi, t'as plus d'Olam Haba ? Alors qu'est-ce que t'es ? T'es un morceau de viande, t'as plus de Neshama, t'as plus rien. Alors pourquoi tu vis ? À quoi tu sers ? Et elle commence à lui mettre dans la tête à son mari. Tiens, vous connaissez ça un peu ou pas ? Quand la femme, elle se déchaîne contre eux. Son mari, le mari, il est super. Mais qu'est-ce que tu dis quoi ? Oui, mais quoi ? Mais qu'est-ce que tu es maintenant ? T'es comme un animal, t'as pas de Neshama, t'as pas de Olam Haba, qu'est-ce que tu vaux ? Mais t'es fou d'avoir fait ce tour, il faut le récupérer. Et là, le bonhomme, il dit, waouh, wow, qu'est-ce que j'ai fait là? Ouh là là, attends, je réfléchis, mais c'est vrai, peut-être que. Mais je suis fou, quoi. Et là, vite, il sort, il dit, va le récupérer, donne-lui ce qu'il a, donne-lui ce qu'il veut, donne-lui, récupère-le. Il va, il attrape le jeu, il dit, hey, dis-moi, dis-moi. C'était pour rigoler, hein, l'histoire, Olamaba, un rouble, hein. Tiens, tiens, je te rends ton rouble, mon papier. L'homme me dit, bah putain, je rigole pas, moi. Moi, je dois faire des affaires, j'ai besoin de garder ma fille, j'ai besoin d'argent. Elle dit, ah, c'est de l'argent que tu veux, d'accord, ok, allez, vas-y, je te donne 5 roubles. Tu me rends mon papier. Il dit 5 roubles, mais tu rêves, mon ami. Il dit combien tu veux? Combien je veux? 1000 roubles. Quoi? 1000 roubles? Mais t'as pas honte, voleur? 1000 roubles? Mais quelle honte! Entre nous, c'est pas ça, c'est ce qu'il lui fait, non? 1000 roubles, il demande. Il dit bon, ok, là, il 50 roubles. Non, 1000 roubles, je t'ai dit. Mais vas-y, arrête, ça va pas ou quoi? Et sa femme, elle vient. Vas-y, vas-y, j'ai une bonne foi, vas-y, fais-lui, fais-lui. 100 roubles, 200, non, 300, non, 500. Ça dure 2 heures. Et à la fin, il dit à l'ennemi Roub, vas-y, prends-les, rends mon papier. Il prend le papier, il truc, il déchire. Il est énervé comme ça. Et la femme aussi est énervée. Et le mec, il est content. Il a ramassé ses 1000 roubles. Comme le rébé, il a dit. Mais là, la femme, elle se retourne vers le type. Elle lui dit, mais attends, franchement, tu nous as roulé. C'est logique ce que tu as fait. Maintenant, entre nous, entre nous. C'est bien ce qu'il a fait. C'est bien ce qu'il a fait. Franchement, le mec, il a acheté un rouble avant 1000 roubles. C'est une combine religieuse, ça. C'est quoi ça? Et il lui a dit, écoutez, moi, vous avez un problème, vous allez voir mon rave. Moi, mon rave, comme ça, il m'a dit de faire la première affaire, j'ai fait ce que machin, j'ai reçu mes roubles. Moi, je vois, c'est exactement l'application de ce que le rave, il a dit. Vous avez un problème, allez le voir. Il dit, ouais, c'est qui ton rave, je vais le voir, là. Il lui dit, voilà, ouais, Israël de Apta, va le voir. Elle est partie le voir, elle commence à lui dire, ouais, ça veut dire quoi? C'est quoi ce religieux-là? Il a 1000 roubles, il nous a roulé. Et le rave, il réfléchit comme ça. Et lui dit, écoutez, madame, quand votre mari, il a vendu son Olamaba, combien est-ce qu'il valait? Il valait la valeur qu'il a considérée pour lui, son Olamaba, puisqu'il était prêt à le vendre à 1 rouble. Il valait 1 rouble, ça valait rien. Aujourd'hui, qu'il a pris conscience de combien ils vont son Olamaba et qu'il était prêt à donner pour ça 1000 roubles. Alors, combien ils vont son Olamaba? Ils vont 1000 roubles. Donc, c'est une bonne affaire, qu'est-ce qu'il y a? Et ça, c'est l'histoire, elle s'arrête là. Plus tu vas considérer la chose, et plus la chose sera considérable. Ça se dit? Je ne sais pas. Ça, c'est la première histoire. La deuxième histoire, et donc pour juste par rapport à Shavuot, c'est la même chose. Shavuot, lorsqu'on va arriver devant Akadosh Baruch Hu à Shavuot, et on va montrer à Hachem, pas seulement à Shavuot, c'est toute cette préparation-là, que la Torah, elle est chère à nos yeux. Comment est-ce qu'on montre que la Torah, elle est chère à nos yeux? Que déjà, Shavuot, on ne va pas le gâcher à simplement manger, à dormir. On va montrer que chaque instant est important. On va étudier, on va être sérieux. On va montrer que la Torah est chère à nos yeux. Alors que je pourrais dire, ah, cette Torah-là, il la considère. Alors, ça vaut le coup de lui donner beaucoup de Torah. Plus on va apprécier la Torah, pour celui qui a la capacité d'étudier, celui qui n'a pas la capacité d'étudier, alors qu'il va aider Talmidei Chachamim à vivre. Ça aussi, c'est une grande mitzvah. Ça montre qu'il est marir la Torah. Aussi recevoir la Torah. Il y avait une fois à Shavuot ici, et un bonhomme il est arrivé, il a dit, moi j'arrive pas à étudier. Je sais pas, tu dis, c'est un monsieur un peu âgé, il avait du mal, comme ça, il boitait un petit peu. Il a dit, moi, à Shavuot, je vous sers. Personne ne se lève, celui qui veut un café, je lui sers. Et de, nous, on était dans le Talmidrash, on a tous étudié plus ou moins. Mais celui qui a le plus travaillé, c'était lui. D'accord, il allait d'un bonhomme à l'autre, tu veux quelque chose, tu veux un café, tu veux machin, il a amené des glaces, il a amené des boissons, il a amené des trucs et tout. Il a essayé de servir les Talmidei Chachamim, d'accord, comme il a pu. Et ça aussi, par cela, il montrait la rachivou du Limouda Torah. D'accord. Maintenant, juste pour revenir par rapport au Rechaim, Kakosh Baruch Hu, il fait perdre au Rechaim le salaire des mitzvahs. Il y a une histoire que j'avais rapportée, très intéressante. Un jour, il y avait dans une ville un rachat, un moïser, parce que c'était un moïser. Moïser, c'était un homme qui dénonçait les gens. D'accord. Il allait voir les autorités, là-bas, c'était les Russes à l'époque. Tel juif il a fait ci, tel juif il a fait ça. Et il dénonçait, les Russes venaient, la police venait, embarquaient les gens, mettaient en prison. Et donc cet homme-là, il avait fait beaucoup, beaucoup de mal dans la ville. Un impie notoire, les gens le haïssaient, un type horrible. Et qu'est-ce qu'il est arrivé à cet homme-là? Il est mort, ça arrive, d'accord? Il est mort. Et qu'est-ce qu'on fait à un mort avant d'enterrer? On lui fait ce qu'on appelle la tahara. On va le prendre et on va laver le mort. On va laver. Certaines fois, des fois on trempe au mikvé le mort, d'accord, tu as certaines choses à faire avant de l'enterrer. Et donc quand ils étaient en train de le laver, donc il y avait toute l'équipe de la Chevra Kadisha des pompes funèbres qui était en train de s'occuper de lui. Et en plein milieu, alors vous savez, malheureusement, on s'habitue à tout. Ça veut dire que les gens de la Khevra Kadisha, c'est, comment dire, ils voyaient un mort devant eux, ça leur fait rien du tout. C'est, on raconte le Rav Yosef Chaim Sonnenfeld, qui était le Rav de Jérusalem. Il avait voulu acquérir un petit peu de crainte du ciel, de crainte de la mort, de crainte de la faute. Et donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est engagé dans la Khevra Kadisha. Ouais, pour avoir un petit un peu contact avec les morts, pour un peu ressentir ce que c'est la fin de la vie. Qu'est-ce qu'il raconte? Il est resté 2 semaines. Au bout de 2 semaines, il dit même ça, on s'habitue. On s'habitue tout. Et donc, oh, là-bas, il y avait une ambiance, il est en train de nettoyer, voilà. Et il y a un de l'équipe, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est approché du mort, et peut-être qu'il avait un gros nez, je ne sais pas. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait une pichenette. Une pichenette ou une pichinette? Une pichenette, d'accord? Donc il a fait une pichenette dans le nez. Et tous les copains, mort de rire, peut-être qu'il a fait le mort, il a fait une pichenette. D'accord? C'était rigolo? Rigolo, on a bien rigolé. Et donc on a emmené le corps il s'est fait enterrer, voilà, il est fini, l'histoire est finie. Dans la nuit, l'homme à la pichenette, donc le pichenetteur, s'endort, et tout d'un coup, qu'est-ce qu'il voit en rêve? Il voit le mort arriver en rêve, en train de lui hurler dessus, « Ouais, machin, tu m'as humilié, je t'attaque tout de suite, maintenant tout de suite tu viens avec moi devant le Beit Din chez le Mala, je t'attaque maintenant de la honte que tu m'as fait !» Et le type, il se réveille, « Waouh, oula, c'est quoi ce rêve que j'ai fait ?» Après, dis-moi un rêve, il est mort. Bon, il se rendort. Mais le problème, c'est que le mort, il revient. Et ainsi de suite. Tous les nuits, le mort revenait, énervé, en train de lui crier, en train de le menacer. Je t'attaque maintenant, je veux que tout de suite tu viennes devant le tribunal céleste, tu vas voir. Et le type, il commence à rentrer dans une dépression. Il ne dort plus la nuit, il est malade, il devient. Il va se confier à son père. Il raconte l'histoire à son père. Et le père, il entend ça, il ne sait pas quoi faire de ça à son fils, pauvre fils, il va mourir comme ça. Qu'est-ce qu'il va voir le père? Il va voir un grand rabbin de la génération qui s'appelait le Maharsha. C'est qui Maharsha? À la fin de la Gemara, il y a un commentateur qui s'appelle Maharsha, 250-300 ans. Un des grands commentateurs du Talmud. Il voit le Maharsha, il lui raconte l'histoire. Et le Maharsha, il dit, écoute, dis à ton fils de venir dormir chez moi, d'accord? Dormir à côté de moi. Et lorsque le mort va l'apparaître, alors qu'il parle, qu'il hurle, qu'il fasse quelque chose, et moi je vais m'adresser au mort, je vais le défendre, je vais le... Et donc il est venu dormir, il s'est endormi, et tout d'un coup le mort arrive, et là il se met à hurler, là le marcha il se lève et commence à parler. Il parle au mort. Il me dit, qu'est-ce que tu veux? Va-t'en, laisse tranquille cet homme. Il dit, non, je ne laisse pas tranquille, il m'a fait une grande honte, il m'a humilié, il m'a fait une pichette de massin, ça m'a humilié devant tout le monde. Je veux maintenant qu'il vienne avec moi au tribunal céleste, il va être jugé pour la honte qu'il m'a fait. Et le marcha il dit, mais qu'est-ce que tu veux de quoi? Mais toute ta vie t'es un racha, toi, t'as fait du mal toute ta vie. Toute ta vie, t'as vendu ces pauvres juifs-là qui étaient en Russie, ils avaient une vie difficile là-bas dans ces pays-là. Tu les as vendus, tu leur as fait du mal, d'accord? Qu'est-ce que tu viens maintenant te plaindre? Sois tranquille. Il dit, moi, Racha, moi, un impie, ma pitom, pas du tout. Quand je suis mort, on ne m'a pas jugé comme un impie. On m'a jugé comme un tzaddique. Il dit, toi, on t'a jugé comme un tzaddique, comment ça se fait? Il dit, tout simplement, c'est que quand j'étais plus jeune, j'étais un jour au bord d'un fleuve, et il y a des bachour et yeshivot qui sont venus, des étudiants des yeshivas, qui sont venus se baigner. Et il y en a un qui était en train de se noyer. Et qu'est-ce que j'ai fait, moi? Ni une ni deux, j'ai plongé, je l'ai sauvé. Je l'ai sauvé de la mort, il était en train de se noyer, il avait failli mourir, je l'ai sauvé. Et cet homme-là, ce jeune homme-là, d'accord, c'est devenu un grand Talmid Chacham. Un des grands de la génération, un grand Talmid Chacham. Et quand je suis monté au Lamaba, c'est vrai que j'ai plein d'avéros, j'ai plein de fautes. Mais on m'a dit que quoi? Le fait d'avoir sauvé cet homme-là, alors je méritais d'hériter de toute sa Torah. Et toute la Torah que cet homme-là, il a étudiée, et qu'il a transmis aux élèves, toute sa Torah, elle m'appartient à moi aussi. Et je suis un associé de sa Torah-là. Et donc, je ne suis pas considéré comme un rachat. Alors c'est pas vrai, cet homme-là, il m'a fait honte, et je veux qu'il paye maintenant. Qu'est-ce qu'il dit le marcha? Qu'est-ce qu'on répond à une question pareille? C'est balèze quand même, hein? Qu'est-ce que le marcha, il lui dit? Non, c'est pas lui qui s'est donné. Non, ça c'est trop fantastique, ça. C'était non. Qu'est-ce que tu lui réponds, Maharsha? Il lui a dit, mais espèce d'imbécile. Te rends compte, le Olam Abba, un homme rachat comme toi, hein, la chance que tu as d'avoir hérité d'un Olam Abba extraordinaire comme ça. Qu'est-ce qu'on essaye maintenant du ciel de te faire? Qu'est-ce qu'ils se sont dit dans le ciel? Ils ont dit, sauf ce mec là, c'est un rachat. C'est vrai qu'il a fait une mitzvah, etc. Il a sauvé un homme, Magdi Torah, Aval Bemet, Magdi Alo, tout ça. Ça lui revient, toutes ces choses-là. Ils veulent te faire perdre ce que tu as mérité maintenant. Ils veulent que tu tues cet homme-là, l'homme à la pichinette, d'accord, que tu l'intrigues et tu lui fasses du mal. Et si cet homme-là, il meurt à cause de toi, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, toute sa descendance qu'il aurait pu avoir, et va savoir la descendance qu'il peut avoir. Peut-être de lui va sortir un grand Tamid Racham, un grand sadique, et de ces sadikim, encore d'autres sadikim, des générations entières. D'accord? Vous savez, Caïn et Abel, ils étaient deux. Ouais?
Caïn.
Non, on peut pas dire Caïn et Abel. On va dire Adam Arishon et Chava, ils étaient deux. De deux personnes, combien on est aujourd'hui? Des milliards d'habitants, d'accord? De deux personnes seulement. Donc d'une personne, c'est un monde entier qui peut sortir. Donc en tuant cette personne-là, c'est des générations de juifs que tu es en train de tuer. Et donc cet homme-là, s'il meurt, ce sera ta faute s'il meurt. Et de ce meurtre-là, on va t'accuser. On va dire, regardez cet homme-là, il a causé la mort d'un innocent. Il a causé la mort d'un tzadik, cet homme-là c'est un tzadik. Et de lui devait sortir un tel et un tel et un tel et un tel et un tel. Et donc maintenant, viens, on va faire la balance. C'est vrai qu'il a un grand mérite d'avoir sauvé celui-là. Mais il a un grand chov, une grande dette d'avoir tué celui-là. Donc qu'est-ce qu'on fait? On annule ça, on annule ça. Et maintenant, on va le juger selon ses actes. Donc une espèce d'imbécile, essaye de ne pas perdre tout ce que tu es en train de... Tout ce que tu as mérité, ne va pas le perdre maintenant. Et donc à ce moment-là, le mort a disparu et l'homme, il a été sauvé. Et donc encore une fois, on retrouve ce principe-là. La valeur que tu donnes à une mitzvah... Non, en fait, c'est pas ce principe-là qu'on apprend. C'est que Akash Borou, il paye le salaire des Récharim dans ce monde-ci. D'accord? Donc, même s'il a un grand mérite, on trouve toujours un moyen, même après la mort, de lui faire perdre de ces choses-là.
Hein? Après la mort, c'est comptabilisé.
On peut plus faire de mitzvot, c'est pas vrai. En laissant des enfants, tzadikim derrière nous, qui disent le Kaddish, tu peux régresser aussi. Ah, c'est terrible. Le Ben Ishraï, il disait aux femmes qu'elles n'avaient pas le droit de se faire photographier. D'accord? Il dit une femme ne doit pas se faire photographier. Pourquoi elle doit se faire photographier? Alors, on a tendance à croire parce que c'est pour des raisons kabbalistiques. Il y a des grands kabbalistes qui ne veulent pas se laisser photographier. D'accord? Il y a des admourim, jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas de photo d'eux. Pourquoi? Parce que pour eux, l'image, alors ça reprend quelque chose, le tselem, on ne veut pas qu'on le reprenne. D'accord? Ils ne se laissent pas photographier. Mais le Ben Ishraï, c'est pas pour ça qu'une femme ne doit pas se photographier. Pourquoi? Parce que si elle se fait photographier, même après sa mort, si la photo, on va dire, elle est attrayante, quoi, elle va continuer à faire fauter des hommes. Et donc, tous les ans, on va rouvrir son dossier, on dit, allez, madame, regardez, allez, cette année encore, vous avez fauté, faire fauter tant et tant de personnes. Donc, après sa mort, il continue à faire... L'homme, c'est moins. D'accord? En général, là, une femme, c'est plus... d'accord, on fait plus de fautes en regardant une photo de femme qu'en une photo d'homme. Non? Je sais pas de quel côté tu te places, toi. Non, mais bon, en règle générale. Moi, à l'époque du Ben Ishraï, les gens, c'est normaux. En tout cas, c'est le conseil. Donc, et les mitzvot aussi. Un homme, il a laissé derrière lui un mérite. D'accord? Il a laissé derrière lui un mérite. Il a construit une yeshiva. Il a je sais pas ce qu'il a fait. Il a fait plein de choses. Il a donné à David Raham d'étudier. Et cet homme-là, après sa mort, il continue à étudier, continue à étudier, continue à étudier. Eh bien, c'est son salaire continue. D'accord? Un homme qui a laissé derrière lui des enfants de Sadikim, c'est extraordinaire. D'accord? Toute cette Torah qui vont avoir les enfants, ils vont le... Une histoire connue. Il y a un homme qui n'avait pas d'enfant. Il est parti voir Rabbi Chaim de Volodine, je crois que c'était. Et il lui a demandé, il a dit, voilà, moi je vous donne tant, machin, je vous demande de faire Kaddish pour moi après ma mort. Pas d'enfant, moi j'ai la yeshiva, faites Kaddish pour moi après la mort. Je crois que c'est la Rabbi Chaim de Volodine. En tout cas, cet homme-là, les années sont passées, il est mort. Et donc le Rav, il a été mekayem, il a accompli sa promesse. Il a commencé à dire Kaddish pour lui, faire des mishnayot pour lui. Et arrivé un moment où le mort, il a apparu, il a dit stop, arrêtez. Il dit quoi, arrêtez? Il dit, quand vous avez commencé à dire Kaddish sur moi, alors on m'a monté d'un niveau à un autre niveau, on m'a mis une couronne sur la tête et on m'a monté. Et là, je suis arrivé à des niveaux que je ne comprends même plus où je suis là. Donc un mérite que tu laisses derrière toi. Il continue après derrière toi. Et Chas v'shalom, une avéra que tu laisses derrière toi. Chémichement, une avéra que tu laisses derrière toi, elle continue après toi. Il y a des gens qui ont fait du mal, pas donné de nom et pas donné d'exemple. Et on peut imaginer qu'ils ont laissé des mauvaises choses dans ce monde-là. Ils sont morts. Et ces mauvaises choses, elles ont continué.
Donc quand ils vont arriver, ils vont te dire qu'ils rentrent en avéra tout seul avec ses mérites à lui. Alors, est-ce que ces enfants ou quoi qui font ta erreur, ils le font régresser? Ils peuvent le faire sortir de la mort?
C'est une bonne question. J'ai posé cette question à Tamid Racham, j'en ai vu ce qu'il m'avait répondu par rapport à ça. Parce qu'il y a une certaine limite à ça. que si l'homme, il avait fait des efforts, il a tout fait pour éduquer ses enfants comme il fallait, alors maintenant, est-ce qu'il est complètement responsable des... Je crois que, si je me rappelle, la question que j'ai posée il y a 17 ans, j'avais posé une autre question. Je ne sais plus ce qu'il m'avait répondu par rapport à ça. Il m'avait dit... Non, la question que j'avais posée à l'époque, c'était par rapport... Que nous, on est des Gilgoulim, d'accord ? On est des réincarnations, on vient réparer quelque chose. Mais si je viens réparer quelque chose, mais au passage, je casse autre chose, d'accord ? Que j'avais déjà réparé dans la vie précédente, alors quoi ? Je devrais encore revenir une fois pour réparer... C'est sans fin. Là-bas, on dit que non. Ce que t'as réparé, t'as réparé. D'accord ? Ce que t'as fauté, tu le paieras. T'auras un guéninum pour ça, un petit quelque chose pour ça, t'inquiète pas. Mais ce que t'as réparé, t'as réparé.
Mais il y a un truc qui est difficile à comprendre. Comment on peut... Là, on est tous des Gilgoulim.
On est tous des Gilgoulim. Je ne suis pas expert en Gilgoulim.
Oui,
mais d'après mes maigres connaissances, je pense que oui, nous sommes tous des Gilgoulim.
Alors, comment on peut parler de guéninum, galédé, si quand on va monter, on redescend? C'est-à-dire, on ne peut pas rentrer dans
la Neshama, il y a plein de halakim dans la Neshama. Je ne suis pas expert en ça. Vraiment, je m'excuse de ne pas avoir suffisamment étudié ce sujet-là. Mais dans la Neshama, il y a plusieurs halakim. D'accord ? Il y a plusieurs parties dans la Neshama. D'accord ? Donc, il y a des parties qu'on a réparées, et des parties qu'on n'a pas réparées. Voilà, mes Ardachés, messieurs. J'espère que voilà, ça vous a intéressé ce qu'on a raconté. Et on nous souhaite un Shavuot Tov, ça se dit ? Non, c'est bidon. Un Chag Sameach, mes Ardachés.